femme, simplement je te dis que je t'aime, je t'aime. T'es comme un soleil qui brille dans mes nuits, et je prends racine en toi, femme, femme. Je te dédie ces mots à toi, rien qu'à toi, et ils te diront comment du néant tu as fait un homme de moi.
Et vous voilà à Aleph, ce morceau de musique ne vous étonnera pas. Il n'y a que nous à pouvoir passer ça.
Mais c'est une reprise de qui? Enfin, je veux dire, qui a fait cette reprise?
C'est Bande à part.
D'accord.
J'ai cherché énormément de versions de cette chanson. J'en ai trouvé plein. Mais
combien t'en as trouvé?
J'en ai trouvé énormément, mais qui sont surtout en fait des gens qui ont fait des reprises en essayant de coller à l'original. Hein.
Ah, d'accord.
Des vraies reprises intéressantes. Ouais. Celle-là est la meilleure, évidemment. C'est pour ça que j'ai sélectionné. Voilà. Mais je pense qu'effectivement, le féminisme, ça passe aussi par la cancel culture et le fait de rayer des livres d'histoire le personnage de Jean-Luc Ley.
C'est pas très grave.
C'est pas très grave. Hein.
L'histoire s'en remettra.
Oui, la variété aussi. Vous l'avez compris, donc on parlera féminisme aussi dans cette revue de presse.
tout de suite.
Pas tout de suite. On est presque à parler d'autre chose. Non, j'ai pas faire de référence entre les animaux et le féminisme, sinon je vais me faire tuer.
Je commence à avoir l'habitude, tu sais.
Non, surtout qu'effectivement, on va parler d'un livre qui s'appelle « L'incroyable histoire des animaux » qui est sorti
chez les Arènes BD.
On vous l'a déjà évoqué. Voir que, quand même, on a eu un week-end très studieux et qu'on a quand même fait beaucoup de bandes dessinées qui sortent du cadre du divertissement.
Oui, ce ne sont pas des narrations, il n'y a que deux BD sur les cinq là, qu'on va vous présenter qui sont des narrations.
Voilà, il y a deux narrations, deux fictions. Et on a trois essais qui ont
des thématiques différentes.
Des thématiques très différentes, qui ont des points communs sur la forme, mais aussi de très grosses différences. On va y revenir effectivement.
Des différences de... On y reviendra, de qualité et de traitement des sujets en fait.
Oui.
Aussi.
Après, ils ont tous les trois des qualités, mais pas forcément sur les mêmes points. On y reviendra tout à l'heure. On va commencer donc par cette incroyable histoire des animaux. Alors, les Arènes BD ont fait plein de titres comme ça, hein, qui commençaient par l'incroyable histoire. Alors, c'est passé par Le Vin, c'est passé par... je n'ai même plus la liste, je vais vous donner... Alors... Je l'avais tout à l'heure sous les yeux. Alors, la littérature française, la médecine, il y a plein de choses. Ils ont même fait Le Canard Enchaîné. Il y a une liste, je crois d'ailleurs, en troisième de couvre.
Oui, c'est possible. Attends.
Vraiment...
L'incroyable histoire de l'immortalité, l'incroyable histoire de la cuisine, l'incroyable histoire de la géographie, l'incroyable histoire de la littérature, l'incroyable histoire de la médecine, l'incroyable histoire du sexe. L'histoire de la 5e République, et puis aussi les plus connus peut-être, Economics, Philosophics, des choses plus récentes en fait.
Ouais. Voilà. Donc on est quand même sur une série effectivement qui est assez maîtrisée. Par contre effectivement, on est sur des gens qui n'ont pas forcément des carrières d'auteurs de BD, et ça on va le revoir sur d'autres titres après. Karine Oumaltignon est évidemment... une spécialiste sur le monde des animaux. Elle a fait effectivement...
Un journaliste aussi.
Voilà, elle a fait beaucoup de livres sur le sujet.
Beaucoup travaillé avec Arte.
Oui. Avec Jean-Jacques Arnaud. Arnaud aussi. Ouais. Où elle avait fait une novélisation des femmes. Voilà. Elle a vraiment C'est une thématique qu'elle maîtrise.
Oui, elle, ça fait des années qu'elle travaille sur ces thématiques. Mmh. Comme tu l'as dit.
Et voilà. Et ça reste effectivement quand même un livre qui est ultra maîtrisé, à la fois au niveau de son scénario comme au niveau du dessin de Jacques-Olivier Martin. Mmh. Alors, l'incroyable histoire des animaux, du coup, elle part d'un postulat qui est assez étonnant quand je l'ai lu, parce que au départ, moi, je m'attendais à avoir effectivement une histoire de l'évolution des animaux avec effectivement quelque chose qui se passait sur la, comment, la paléontologie, effectivement, de savoir effectivement les différents animaux, la manière dont ils sont arrivés sur Terre, etc.
Ouais, tu voyais ça plutôt d'un point de vue évolution physique.
Oui, tout à fait.
D'accord.
Et en fait, je me suis rendu compte que très vite, que, et elle part d'un postulat qui est assez intéressant. C'est-à-dire, les animaux ne parlent pas. On ne peut étudier les animaux qu'à travers la vision qu'on a eue les hommes.
Oui, c'est... Oui, oui.
Et c'est complètement ça. Et c'est ce qui fait que, finalement, ce bouquin a au moins le mérite de nous parler de quelque chose qu'on connaît, vu sous un point de vue différent et qui est pourtant de l'autre. Mmh. Et là-dessus, c'est assez bien joué.
En fait, elle part de... Elle part du constat scientifique que oui, l'étude des animaux ne peut se passer que par l'étude de la relation entre l'homme et les animaux, de l'impact que l'humanité a eu sur les animaux.
Oui.
Et voilà.
Et c'est vrai qu'elle le fait quand même très bien. Il y a des choses...
Oui, c'est tout à fait juste.
Voilà. Oui, non, mais après... Alors,
passionnant et très bien, comment dire, très bien expliqué, très bien vulgarisé.
J'ai envie de dire que paradoxalement,
elle rend le sujet très clair.
Ce qui, pour moi, est un peu, alors pas bloquant, mais dommageable, c'est finalement le dessin qui est trop beau. Parce que, du coup, le dessin est magnifique. Hein.
Oui.
Il y a un travail de dessin, de couleur, qui est vraiment excellent. Mais du coup, qui fait qu'on a presque des tendances à tellement admirer le dessin qu'on sort de la narration.
Oui, parce que à la fois le texte et le dessin sont tous les deux très prenants, quoi.
Ah oui, non, mais là-dessus, c'est... C'est vrai que très bien fait.
On a un graphisme qui est proche de l'aquarelle. Et pour le coup, peut-être un graphisme auquel on ne s'attend pas dans une BD de ce genre.
Par rapport aux trois titres qu'on va avoir dans le type essai, c'est de très très loin, mais vraiment de très très loin, le plus beau graphiquement.
Oui, c'est vrai.
J'ai même envie de dire que sur les 5 titres du jour, c'est probablement celui qui graphiquement est le plus ambitieux.
Oui, oui, parce que c'est celui qui rappelle le plus le trait...
un trait réaliste.
Un trait réaliste, un trait naturel de peinture à la main, en fait. Les autres, on voit que c'est fait sur tablette graphique, on voit que tout a été repris, quoi.
Mais oui, il y a un vrai travail de couleur, etc. Mmh. Bon, aujourd'hui, effectivement, on ne peut plus savoir ce qui est fait sur tablette graphique ou pas.
Oui,
parce qu'il y a des gens qui...
Ça fait...
Mais ça, en tout cas...
C'est du scan, là, ça se voit.
Il y a tel logiciel de séparation de couleurs aujourd'hui qu'on pourrait être surpris parfois de ce qui est fait. Il y a des gens qui maîtrisent, mais effectivement, ça semble quand même être très travaillé. Et ça, en tout cas, toutes les qualités d'une couleur à la main.
Oui,
si ça ne l'est pas,
certains passent la couleur. Je sais pas, probablement que la couleur est retravaillée, mais il y a vraiment une base...
Je pense, oui, quand même.
Une grosse base à la main, quand même.
Voilà. C'est en tout cas, au niveau graphique, un travail énorme. Et là-dessus, c'est vraiment à louer. C'est vraiment très réussi. On est sur un titre qui coûte uniquement 21,90 €, qui, en contenu de la quantité de lecture, est quand même assez étonnant.
Cette BD fait quand même 176 pages.
Voilà. Si vous n'aimez pas les animaux, faites comme moi, lisez quand même. Il y a des petites histoires sur la manière de torturer les chats que même moi, j'aurais jamais imaginé.
Oui, et encore, c'est... En fait, là, on parle des animaux pour mieux parler de l'homme, en fait. Tu vois,
on parle de la manière dont l'homme ne les a pas forcément toujours respectés.
Voilà, c'est pour mieux parler de l'homme qu'on parle des animaux. Mmh. Tu vois.
Non, et puis, c'est vrai que, du coup, même sur la manière de parler de philosophie, le fait de prendre un point précis comme les animaux, ça permet de voir des différences de courant de pensée qu'on a pu avoir. Qui paraissent moins claires quand aujourd'hui on va parler de philosophie en général. C'est effectivement peut-être regarder les choses par le petit bout de la lorgnette, mais c'est effectivement mettre le point sur des différences de conception que vont avoir ces philosophes. Ça nous ramène effectivement à différentes époques, puisque de chapitre en chapitre, on va traverser les époques.
Et c'est l'intérêt, parce que ça permet d'avoir un éclairage, tu vois, sur ça permet de réfléchir sur l'évolution entre l'homme et les animaux, mais au très long terme.
Oui, on va... je vais mettre un bémol sur ce titre,
oui,
qu'on va retrouver sur, effectivement, les trois titres d'essai qu'on a aujourd'hui. C'est par rapport à, du coup, un aspect éditorial et cette volonté qu'on a aujourd'hui à faire du roman graphique chez les éditeurs de franco-belge. Et je pense que ce sont trois livres qui ont tellement de contenu.
Ça, c'est vrai.
Qu'ils perdent à être sortis en un seul tome.
Probablement. Ça tient aussi peut-être du fait que la structure n'est peut-être pas assez visible au sein de ces trois
Après, dans ce tome-là, on a des chapitrages qui sont clairs.
Ouais, on a des chapitrages, mais... comment dire, ouais, c'est peut-être pas assez marqué.
Je pense qu'effectivement, on est complètement dans des choses qui, il y a 20 ans, auraient été des séries de tomes de 48 pages.
D'accord.
Après, on a ici un album qui fait 168 pages. Est-ce que si on avait fait trois tomes... ça se serait vendu jusqu'au troisième? Ça, c'est une autre question. Par contre, toi comme moi, on est dans une situation un peu particulière. On a lu ces trois tomes en une traite. Parce qu'effectivement, on les a lus dans le cadre de l'émission. Et que du coup, on s'est vraiment plongé dedans. Et je pense que c'est des livres qui méritent d'être pris par morceaux, de picorer dedans. Et c'est vrai qu'il y a vraiment des choses très intéressantes à voir dedans. Et globalement, c'est quand même... une très bonne surprise. Donc, ça s'appelle donc L'incroyable histoire des animaux. Ça fait 168 pages. C'est sorti le 14 octobre. C'est effectivement quelque chose à lire. Est-ce que c'est un bon cadeau pour Noël?
On
est au mois de novembre. On peut se poser la question quand même.
Bah, pourquoi pas?
Alors voilà. Pas effectivement à des enfants.
Non,
clairement,
non,
on est pour un public d'adultes.
Voilà, pour un public adulte qui est intéressé sur les questions...
Pour la cousine Gertrude qui est bénévole à l'SPA, c'est top.
Oui, voilà. Voilà.
Ouais, pourquoi? C'est parce que je l'ai appelée Gertrude que ça te plaît pas?
Non, peu importe.
Non, mais je sais que tu es en pleine réflexion sur chercher des prénoms, donc je veux t'aider. Elle s'appellera la cousine Gertrude. Non. Bon, eh ben, c'est pas pour Gertrude. J'ai pas encore trouvé le bon prénom. Donc, en tout cas... c'est quand même un album qui a vraiment effectivement des qualités, qui se lit bien, mais effectivement, ça nécessite de s'y reprendre à plusieurs fois, il y a plusieurs éléments. À ne pas mettre entre toutes les mains, c'est parfois effectivement assez dur quand même. Il y a des éléments sur la vivisection qui sont difficiles, mais c'est vraiment instructif sur l'histoire... non pas des animaux, mais du traitement que les humains ont apporté aux animaux.
C'est ça. Ouais, ça traite de l'élevage, aussi bien des premières domestications des animaux que de la chasse, que de l'élevage. Voilà, tout est question.
Donc, plutôt quand même une très bonne surprise.
Oui.
Après, on va le dire clairement dès maintenant, sur les cinq titres, il n'y en a pas un qui nous a vraiment déçus.
Non. Après, peut-être un bémol sur. On y reviendra sur un des tomes que moi, je suis pas rentré dedans pour différentes raisons, mais Sinon, oui, c'est une bonne sélection.
On passe au deuxième titre ?
Oui.
Alors,
ce deuxième titre, c'est Saint-Elme, dont le premier tome est paru chez Delcourt. Ça a été commis par... Fait, créé, pensé, dessiné...
Réalisé.
Par Serge Le Mans et Frédéric Peters.
Je te laisse me faire
c'est
la...
Premier tome.
La quatrième de couvre ?
Oui, tout à fait. Le détective Franck Sangaré et son assistante, l'étrange Madame d'Ombre, débarquent à Saint-Elme, une petite ville de montagne réputée pour son eau de source. Ils sont sur les traces d'un fugueur disparu depuis 3 mois. Enquête apparemment facile. Sauf qu'à Saint-Elme, tout le monde vous le dira, ici, c'est spécial. Donc après l'homme gribouillé, Serge Le Mans et Frédéric Peters poursuivent leur exploration mythologique de l'Europe contemporaine avec Saint-Elme, à la croisée du polar noir, de l'étrange et de l'absurde.
Voilà, donc Saint-Elme, qu'en dire ? C'est, alors, on nous l'a présenté effectivement un peu en nous disant c'est le Sin City français. Je pense que c'est un peu exagéré. Par contre, il y a vraiment quelque chose qui se dégage de cet album sur lequel on a déjà effectivement un travail très étonnant sur la mise en couleur.
Oui, il y a une couleur qui est étonnante. Moi, ça m'a un peu perdu quand même.
C'est-à-dire que moi, en me l'a vendant comme du Sin City...
Je m'y attendais aussi à avoir une couleur particulière.
Mais
je ne m'y suis pas forcément retrouvée.
Alors, on est quand même sur des auteurs qui sont clairement des auteurs connus et reconnus dans le milieu. Hein.
Tout à fait. Puis c'est aussi un genre, le polar, l'enquête policière, c'est pas j'ai lu, mais c'est pas forcément ce qui me plaît le plus. Donc voilà, j'ai pas eu d'affection pour à lire cette BD, c'est tout.
Alors Serge Le Mans, effectivement, déjà ils avaient travaillé ensemble sur L'Homme Gribouillé. Serge Le Mans, c'est aussi quelqu'un qu'on connaît bien dans le côté super-héros, puisqu'à l'époque, il avait fait La Brigade Chimérique, qu'on pourrait effectivement présenter comme la Ligue des Gentlemen Extraordinaires française.
D'accord.
Puisqu'effectivement, il était revenu sur différents personnages qui venaient de cet univers. Donc, il a effectivement fait des séries comme Masqué, etc. Donc, c'est quelqu'un qui a effectivement une culture comics. Moi, ce qui m'a
Il a bossé avec Enki Bilal.
Oui, c'est possible, oui. Du coup, on a quand même énormément de choses de qualité dans cet album. Alors, c'est un premier tome. Et alors là, bon, je vais être totalement paradoxal dans mon jugement, mais par rapport effectivement à tous les titres qu'on a eus, et où on a assez pu se dire on en a trop pour en une seule fois, du coup là on est dans quelque chose qui est plus léger parce qu'on est dans une narration, en plus on est dans quelque chose d'assez polar, donc avec beaucoup plus d'action que de parlotte, ce qui est quand même un cas rare dans la sélection du jour. Je suis intrigué, j'ai vraiment envie de voir où ils vont.
Oui, tout à fait.
Et clairement, ça se relira effectivement avec plaisir pour la série de la sortie du tome 2. Parce que c'est intéressant. Alors, après, sur ce village, effectivement, avec des crapauds partout, etc., mais j'ai plus eu l'impression, effectivement, d'être peut-être dans un espèce de village qui a ce côté village insulaire, hein, comme on les décrit facilement dans tout ce qui est cinéma, littérature, effectivement, l'étranger qui arrive sur une île et que tout le monde regarde de travers.
Oui,
ça laisse à penser, effectivement, qu'on va avoir quelque chose de plus surnaturel, notamment avec cette invasion de grenouilles dont on ne sait pas encore dans ce tome 1 à quoi elle correspond.
On a des soupçons, mais...
Mais voilà. On va peut-être plus être dans le Twin Peaks, à mon avis, que dans le Sin City. Twin Peaks, dans l'ambiance du village.
J'allais dire dans Stranger Things. J'ai l'impression qu'il y a des trucs... Ça me paraît tellement... J'ai peur que ça soit un peu téléphoné, en fait, comme un intrigue.
C'est... ça peut être effectivement un risque. Maintenant, effectivement, il faut voir ce que ça va donner.
J'attends de voir la suite.
En tout cas, il y a une ambiance qui est indéniable.
Oui.
Graphiquement, alors, c'est déstabilisant par les couleurs, mais ça se tient quand même largement.
Oui, le dessin est tout à fait... c'est un beau dessin.
Oui, non, mais voilà. Donc, après, effectivement, c'est ce parti pris graphique des couleurs qui le fait
les
passer...
C'est très criard, en fait.
Ah bah, c'est ultra saturé de tous les côtés.
Ben, c'est ça.
Voilà. Ah, il y a quelques planches, effectivement, où, du coup, on arrive dans des teintes beaucoup plus claires, beaucoup plus jaunes, ocre.
C'est pour montrer la différence entre les moments très réalistes et les moments
bien sûr
plus surréalistes, mais voilà, c'est ouais, moi tant de couleurs criardes, moi ça me gêne tout, enfin c'est pas forcément ce qui me plaît.
Voilà, je suis assez d'accord effectivement sur cette gestion des aplats de couleurs. Je pense que je suis le premier à dire que Sin City, je préférais quand il mettait pas de couleurs dessus que quand il a commencé à en mettre de tous les côtés. C'est voilà.
Ça peut... Je trouve que parfois ça dessert même peut-être le dessin.
Je pense que la couleur mise en couleur, oui, dessert le dessin, puisque finalement on voit que sur ces planches beaucoup plus tranquilles, dans ces tons jaune orangé, on a quelque chose qui paraît beaucoup plus joli, parce que du coup les couleurs sont tellement saturées que l'ancrage donne l'impression d'être gras, alors qu'il l'est pas spécialement.
Oui, mais surtout sur certaines teintes, quand les sur le violet, peut-être, ça paraît plus sur le...
Ça manque de dégradé, clairement.
Bah voilà, ouais.
Voilà. Mais après, à voir effectivement comment ça va évoluer dans la suite et si ça s'explique, ça reste quand même une lecture très plaisante. Donc, le titre, il est sorti quand ? Il est sorti le 13 octobre, donc il y a 2 semaines. Et ben clairement, oui, c'est assez intéressant. 16,95, on est sur un prix d'album classique, c'est sorti chez Delcourt. Oui, ça n'a rien de déshonorant, très loin de là. À voir, effectivement, pour avoir un avis plus construit, comme souvent sur le polar. C'est toujours très difficile de juger d'un polar en n'ayant que le premier chapitre.
Ah bah oui.
C'est un peu le principe du genre.
Voilà, faut avoir toute l'histoire. Je ne sais pas s'il y a combien de tomes sont prévus sur cette histoire.
J'ai pas vu l'information sortir. J'avais regardé, mais j'avais pas eu l'information.
Un deuxième peut-être. Attends.
Je revérifie là, mais je ne trouve pas l'information. Je ne sais pas si ça a été annoncé d'emblée.
Je sais pas. Aucune idée.
On passe au troisième titre.
Voilà.
Alors,
le troisième titre s'appelle Dans le palais des miroirs et c'est une bande dessinée de Liv Strömquist. Et c'est paru chez Rackham.
Dans la collection Signe Noir.
Ouais, dans la collection Signe Noir.
Alors, Rackham qui du coup était l'éditeur de Sin City.
Ah, d'accord.
Alors, Rackham, c'est un éditeur qui a fait effectivement pas mal de comics dans le passé. Avec une particularité, c'est que c'est un éditeur qui, à part sur Sin City, a toujours eu énormément de mal à rééditer. Alors, on est effectivement sur une œuvre qui est clairement une œuvre féministe. Mm-hmm. Je pense que là-dessus, on est d'accord. C'est en tout cas en termes d'édition celui sur lequel le travail d'éditeur a été le plus énorme.
Oui.
On est dans un style. Alors, qui.
Il y a un style très.
Très blog féminin.
Ouais, c'est. Au départ, quand on l'a choisi, je ne savais pas exactement de quoi il s'agissait. Et puis en me plongeant dedans, je. C'est beaucoup plus sérieux que le graphisme n'y paraît, mais oui, on a l'impression que c'est du blog féminin ou presque. Il y a un côté journal intime, dessin Ouais, dessin naïf. De... Ouais, un côté dessin naïf d'adolescente. Enfin, voilà, un côté très. Très mignon, en fait, dans cet objet. C'est voilà. Très kawaii. Si c'était un manga, on dirait que c'est kawaii.
Ouais, ça fait presque 10 ans, effectivement, qu'elle est l'édite. Elle est suédoise.
Ouais.
Elle travaille, effectivement, depuis le début avec Rackham. On est dans un. Alors, dans une œuvre, effectivement. Alors, quand je vous dis, effectivement, le côté blog, c'est effectivement parce que finalement, là aussi, on a l'impression d'être dans de la scénette, souvent, plus que de la vraie narration continue, alors que c'est pas le cas. Il y a une vraie narration continue.
Oui.
Ça se lit pas dans le désordre.
Non.
On n'est pas sur du Margot Motin. C'est effectivement beaucoup plus profond dans le propos.
Oui, parce qu'elle a travaillé avec avec scientifiques, différents chercheurs, notamment, je crois, la philosophe Suzanne Bordeaux.
Oui, tout à fait. Il y a un vrai travail de réflexion. Alors moi, j'ai eu un petit problème, c'est sur les premières pages. Où on parle d'une jeune fille dont le nom m'échappe là sur le moment, dont je ne savais pas si c'était quelqu'un qui existait ou si c'était une invention.
Tu parles des sœurs Kardashian ?
Non, avant la sœur Kardashian, il y a leur copine là, comment elle s'appelle ?
Attends.
Non, les Kardashian, j'en avais entendu parler, mais il y a effectivement une copine des Kardashian sur lequel on ouvre.
Kylie.
Ouais, voilà.
Je crois que c'est leur petite sœur.
D'accord. Bah voilà. Tu vois, j'en savais fichtre rien.
Bah oui, parce que, regarde, oui c'est ça, elle peut... Il était une fois 5 sœurs, etc., etc.
D'accord, bon, oui, d'accord. Oui, ben bah, tu vois, du coup, j'avais même pas réalisé dessus. Après, on est quand même dans de la pétasse de télé-réalité, si on me permet cette expression.
Ouais, mais de la pétasse intelligente, que tu réfléchiras, parce que pétasse féministe qui s'autogère. C'est ce qu'elle mène à dire.
Ouais, tout à fait. Mais qui joue quand même sur ce côté pétasse. Elles en jouent. Elles l'exploitent. Ouais,
Elles le surexploitent, mais... En fin de compte, oui. Avant de lire ce livre, bon, j'avais pas trop d'avis sur la question, hein, sur les sœurs Kardashian.
Je savais même pas qu'elles étaient 5, hein. De toute façon...
Je savais qu'elles étaient plusieurs, mais...
Oui, alors, bah, moi aussi.
Fallait pas me demander leur prénom ni leur ni combien elles sont.
Voilà.
Mais
tu savais qu'elles existaient, quoi. C'est déjà beaucoup.
Oui, de nom, parce que je sais.
Parce que tout le monde a entendu parler de leur nom.
Oui, voilà, c'est ça. Mais je pensais que c'était quelque chose. Enfin, je pensais que c'était des nanas qui se prenaient en photo, qui faisaient une télé-réalité, et ça n'allait pas plus loin. Après, si, en tant que fashionista que je suis, je savais quand même qu'elles avaient leur marque de maquillage. Je me suis dit, ouais, les nanas, elles doivent pas être connes quand même pour... elles ont un plan de gestion de carrière quand même.
Voilà. Après, on va être honnête, hein, c'est pas parce que t'as ton nom sur une gamme de maquillage que c'est forcément toi qui gères. Il y a des tas de gens qui ont servi de prête-nom dessus. Ouais, Johnny Hallyday n'a jamais conçu son parfum lui-même. Hein.
Non, clairement. Mais comment dire ? Ça prouvait quand même une gestion de carrière.
Oui, voilà. Oui, tout à fait.
Après, sans savoir,
la gestion de carrière, encore une fois, il y a des fois où ça ne montre plus que t'as un bon impresario. Johnny Hallyday a une bonne gestion de carrière, mais c'est parce qu'il ne l'a pas faite lui-même.
Oui. Alors là, en l'occurrence...
Elles sont un peu plus intelligentes que Johnny Hallyday.
Je ne sais pas. Je n'ai jamais connu Johnny et je ne connais pas les sœurs Kardashian non plus.
Mais elles gèrent effectivement plus du coup que Johnny qui ne le faisait pas. Mais je pense qu'elles sont moins manipulables.
Et visiblement, ce que j'ai appris dans la BD, c'est qu'elles... elles gèrent les choses elles-mêmes, en fait.
Oui, c'est ça, effectivement.
C'est ça qui est intéressant. Mm. En fait, là où la bande dessinée prend d'autres images de bimbo célèbres comme Marilyn, par exemple.
Mm.
Marilyn Monroe était totalement sous la coupe de différents hommes qui géraient son image, géraient sa carrière, etc., etc. Alors que là, ces nanas-là, elles... Ce qui fait réfléchir à qu'est-ce qu'être féministe, c'est qu'elle.
Non, mais c'est comme.
Elle gère elle-même.
Toute cette histoire sur l'exposition des photos ratées de Marilyn, celle qu'elle avait cochée en disant non, celle-là, elle est ratée, je veux pas qu'elle sorte.
Elles sont quand même sorties.
Elles sont sorties, il les a agrandies et avec la Croix-Rouge. Tu te rends compte, c'est elle qui a fait la croix sur le portrait. Ouais, peut-être parce qu'elle voulait pas que tu vois la photo en dessous, en fait. C'est ça aussi qui est étonnant. C'est le mépris, finalement, pour Marilyn, que de sortir ces photos-là à ce moment-là.
C'est clair.
Donc, c'est ça aussi qui est intéressant. C'est sur la manière dont exploiter l'image de la femme et où, en gros, ce qu'on leur reconnaît, c'est qu'elles ont une image qui est tout autant détériorée que celle des autres, mais elles savent ce qu'elles font et elles le font elles-mêmes. Donc, ça ne rapporte qu'à elles.
Et elle maîtrise.
Voilà. Donc, il y a quand même, effectivement, cet aspect-là.
Mais, après, je ne dis pas... Ça mène à réfléchir, en fait.
Oui, non, mais il y a une vraie réflexion, hein, encore une fois. Comme c'était le cas tout à l'heure quand on parlait des animaux. Il y a une vraie réflexion. C'est, effectivement, relativement intéressant.
Oui, puis ça pose des questions sur... sur la communication, sur qu'est-ce qu'être une femme, sur l'image de la femme dans la société, etc. quoi. Alors, sur l'image du corps de la femme aussi.
Alors, du coup, on parlait de l'adaptation graphique. Alors, j'ai juste un petit bémol. C'est quand on voit la qualité de l'adaptation intérieure, le fait d'avoir sorti une planche pour faire la couverture et se dire il n'y a pas une vraie couverture, ce qui est dommage. Ouais. Parce que je pense qu'il y avait moyen, effectivement... Et il y avait sûrement des travaux autres. Alors, je ne sais pas, effectivement, ce qu'il y en a, mais ça m'a un peu déstabilisé sur cet aspect-là. Par contre, effectivement, à l'intérieur, graphiquement, ça a été entièrement lettré à la main. Alors, je pense qu'ils ont repris les polices, etc. Mais il y a un vrai travail et c'est vraiment très bien fait là-dessus. Donc, là-dessus, je suis... On ne peut que leur reconnaître l'effort qui a été fait. On est encore dans un tome de 176 pages. Cette fois-ci... Alors, je n'ai pas dit... On était à 78 pages sur le Saint-Elme, quand même. Ici,
là, on est à 168.
On est à 168. Au niveau du budget, on est à 22 euros. Donc, ça se tient, effectivement, par rapport au premier tome qu'on a vu. Là, on est en hardcover...
Oui.
On a une finition, effectivement, qui fait plus fini.
Et on n'est pas dans un format BD classique, on est plutôt dans un format cahier. Et ben, quand on le voit, ça fait presque plus penser à presque un journal intime.
Mais complètement.
C'est voulu. Hein,
mais c'est complètement logique, effectivement, par rapport au thème. Plus à offrir à la cousine Bérénice un peu...
En école de commerce ou...
Ouais, voilà. Hein, tout à fait. mais on est quand même dans quelque chose qui, là encore, s'offre facilement.
Oui, tout à fait.
Parce qu'on est sur une vraie réflexion et ça... Il y a effectivement clairement un public sur ce type d'œuvre qui est plus facile à identifier que sur celui sur les animaux. Je pense.
La cible peut être plus large.
En sachant que, par contre, effectivement, si vous l'offrez à quelqu'un qui n'aime pas la bande dessinée, le graphisme peut être très rebutant.
Il faut être habitué à la bande dessinée, effectivement.
Voilà. En tout cas...
Mais bon, les...
Oui ?
C'est pas quelque chose qui m'inquiète parce que... Beaucoup de jeunes lisent du manga à l'heure actuelle, donc le format bande dessinée, ils vont peut-être être assez...
Oui, non, mais sur le format utilisé, effectivement, j'ai pas d'inquiétude, ça devrait passer très facilement. Et nous allons maintenant parler d'un album qui est sorti chez Dracou, donc éditeur de fantasy dirigé par Lestan, qui est directeur de collection, il est pas éditeur à proprement parler, mais effectivement, il dirige cette collection fantasy de bambou et il nous propose une nouvelle série qui sera en deux tomes, si ma mémoire est bonne, et qui va nous plonger dans un monde onirique, indirectement. Ça s'appelle, attention, prenez votre respiration, la baroque épopée du monde qui ne voulait plus tourner. Alors, au niveau du titre le plus long, le prix est gagné. Alors, je ne t'entends plus, Alex.
Tu m'entends,
là, je t'entends, oui, c'est mieux. Donc, on est sur une bande dessinée qui est finalement assez classique, mais qui en est très rafraîchissante.
Oui.
Je te laisse me faire la quatrième de couvre.
Oui, Altec est le futur empereur d'Omnamul. Pourtant, ce tout jeune homme atypique ne rêve que de démocratie. Entre intrigue de cour, tentative d'assassinat et un lourd secret intime, sa situation est précaire. Et brusquement, la veille de son couronnement, le monde s'arrête de tourner. Le froid s'installe d'un côté et la chaleur de l'autre. Les habitants cherchent refuge dans la frange crépusculaire. Altec, accompagné de l'impétueuse astrante Irliti Miltitidzi, est envoyé contre son gré dans une quête impossible. Trouver un moyen de faire repartir le monde.
On le voit, on est sur quelque chose qui... Alors, on est clairement dans de la bande dessinée plus adolescente qu'adulte.
Oui, voilà. C'est une bande dessinée jeunesse.
Oui,
voilà.
Complètement. Et qui l'assume et qui le fait très bien.
Oui. C'est pas enfant, mais jeunesse, adolescent.
Oui, complètement. C'est pas neuneux du tout.
Puisqu'il y a des sujets, quelques sujets assez. Important, profond.
C'est graphiquement. Alors, c'est fait par Dimat, Daniela Di Matteo, qui est une dessinatrice italienne qui est dans le milieu de la bande dessinée depuis premier travail 2013. Voilà, ça fait quand même effectivement 8 ans qu'elle fournit. Et clairement, on est dans un travail qui est très maîtrisé dans la forme. On a un style graphique qui est totalement adapté à la fantasy.
Ouais.
On a une narration avec des personnages qui parfois peuvent paraître un peu caricaturaux et déjà vus,
mais
ce qui est complètement logique dans ce type de série, qui joue quand même aussi sur un côté du coup assez humoristique.
Oui, un petit côté, notamment les deux personnages d'oiseaux que l'on voit ponctuellement dans.
Ouais.
Au fil de l'histoire,
Les deux cousins, effectivement, qui
aussi
sont totalement différents et totalement caricaturaux l'un et l'autre, mais ça fait le charme de leur duo.
C'est le couple comique de l'histoire, en fait.
Oui, complètement. Et puis voilà. Et puis, alors, du coup, on nous dit effectivement qu'il y a des secrets intimes qui sont clairement évoqués dès le début.
En fait, il y a plusieurs intrigues. Moi, je trouve que on verra jusqu'où Christophe Arleston pousse toutes ces intrigues. Mais il y a plusieurs pistes intéressantes qui sont soulevées en fait.
À la fois
des intrigues familiales, des intrigues politiques.
Alors, ces intrigues familiales et politiques, effectivement, qui peuvent paraître classiques qui finalement sont des systèmes qui fonctionnent et qui sont quand même loin d'être totalement inexistants.
Tout dépend du traitement aussi.
Oui, tout à fait. Et justement, ce qui m'a intéressé, la qualité du traitement, on n'a pas la prétention à faire du compliqué pour du compliqué. Ce qui est souvent quelque chose qui rend la fantasy difficile à suivre. Là, on sait qu'on fait quelque chose de classique, mais on le fait bien. Et finalement, c'est tout ce qu'on demande à ce genre d'album. Donc, se lit également sans aucun déplaisir. C'est vraiment une bonne surprise pour moi. On a eu parfois la dent dure sur certains titres qu'on a pu sortir chez Dracou, où on n'avait pas forcément toujours réussi à rentrer dedans. Là, on rentre dedans tout seul.
Oui.
Et c'est vraiment, pour moi, une grosse réussite sur ce genre-là.
Mm-hmm.
Voilà.
Pas du tout de fantasy et de ce genre de choses. Bon, voilà, ça se lit bien.
En plus, il coûte 15,90€. Pour un album qui fait, je cherche le nombre de pages, que... Est-ce que j'ai le nombre
83.
De pages
83.
83.
Oui.
Voilà. En tout cas, moi, je vous le conseille. Et là aussi, clairement, c'est un album à offrir sans aucune difficulté.
Oui. À votre neveu, petit cousin, pour Noël, qui a 12 ans, 13 ans, parfait.
Voilà. Tu l'appelles comment, le petit neveu ?
Je sais pas.
Gontran ?
Gontran, si tu veux, Gontran.
D'accord. Bon, eh ben écoute, on... Oui.
Je suis pas exigeante, hein. Gontran, si tu veux.
D'accord. Bon, on n'en saura pas plus.
Pas contrariante.
Sur les prénoms, elle n'est pas contrariante. Et on va donc passer à notre cinquième et dernier titre. Alors là, on arrive... Alors, on vous a déjà dit effectivement par deux fois qu'on avait des titres qui parfois étaient très denses en termes de lecture. Je pense que là...
On a gardé le plus j'allais dire le plus indigeste, mais non, c'est pas ça. Le plus dense, le plus lourd pour la fin.
Voilà. Voilà. Alors, je pense qu'effectivement, certains le trouveront indigeste. Oui, quand même.
Si on n'est pas sensible à ces questions-là, oui, clairement.
Voilà. Alors, moi, je l'ai lu avec effectivement une vision un peu différente. C'est-à-dire que, quand même, globalement, ça me ramène à des choses que professionnellement. Je connais et que je maîtrise quand même en partie. Ouais. Donc ça me simplifie la vie, mais c'est vrai que c'est un titre pas évident.
Alors, c'est Le Monde sans fin, Miracle énergétique et dérive climatique. Donc, le scénario et le dessin sont de Christophe Blin, mais le scénario est de Jean-Marc Jancovici. Et pour vous situer qui est Jean-Marc Jancovici, c'est un ancien membre du GIEC. Voilà. Donc cette BD traite de toutes les questions d'énergie, de ressources, de production. Comment on produit, pourquoi on produit.
Comment on consomme surtout et comment on surconsomme.
Voilà, comment on consomme, comment on surconsomme.
Et c'est vrai que là-dessus...
Comment on vit, quoi.
Il y a quelque chose, effectivement...
Et quel impact cela a sur le climat, évidemment.
Alors, on a quand même... alors, quelqu'un qui est spécialiste de bande dessinée, qui a fait de tout. Hein. Il a été... il est passé par travailler sur du Blueberry ou en faisant des bouquins de cuisine... illustré, voilà, il y a eu plein de choses effectivement qu'il a fait, donc il a vraiment donné dans tous les genres, y compris dans le public reportage précédemment avec des choses comme Quai d'Orsay. On a aussi du coup ce côté dialogue entre lui et du coup son co-scénariste qui est Jean-Marc Jancovici. On a des centaines d'informations.
Ouais, c'est extrêmement dense. Et pour quelqu'un qui n'est pas du tout au fait de ces questions énergétiques, on peut le perdre assez rapidement, je pense. Quoi.
Alors, on parlait effectivement du côté bande dessinée blog. Ouais. Du coup, le problème, c'est qu'ici, on a une bande dessinée de 200 pages,
ouais.
Où chaque page...
Il y a 1000 informations.
Il y a 1000 informations. Ouais. C'est-à-dire que On a quand même des blogs qui feraient 4 trucs par page. C'est vraiment...
Oui, puis là, il y a vraiment 1000 questions dedans. C'est la question de la production d'énergie, les différentes énergies.
Les conséquences avec les gaz à effet de serre, les déchets.
Chaque thématique pourrait presque être une BD à elle-même, en fait.
Oui, tout à fait. On aurait pu effectivement partir sur une série d'entretiens sur différentes thématiques, ce qui aurait pu rendre la chose moins indigeste, comme on disait. Mais en même temps, toutes ces thématiques sont liées.
Oui, donc ça a du sens aussi de les recueillir en un seul volume.
Mais c'est vrai qu'il y a tellement d'informations, alors pertinentes, utiles, de chiffres dans tous les sens.
Mais oui, parce que ce... Ouais, il y a vraiment... On se noie sous les chiffres, hein. C'est le cas de le dire.
Ça reste effectivement, en tout cas, quelque chose d'assez réussi.
Oui.
C'est passionnant.
Ouais.
Alors, j'ai pensé à toi, effectivement, parce que quand je l'ai lu, du coup, je l'ai lu avant toi, j'ai eu le truc, j'ai fait... Il y a un moment, il y a des pages sur lesquelles elle va scotcher et des trucs, elle va dire, je vais les réutiliser.
Ouais. Mais c'est pour ça, en fait, que... J'ai envie de dire, je n'ai pas fini de le lire parce que il y a tellement d'informations que on pourrait sur chaque thématique, on pourrait y revenir et y repasser, y passer un moment et refaire des recherches, se re-questionner. C'est.
Mais moi, du coup, effectivement,
hyper dense.
Quand je l'ai lu, je l'ai fini parce que je savais que je voulais le finir. Alors qu'effectivement, il n'est pas fait pour être lu en une seule fois.
Ah ben et vraiment, si on veut se pencher sur toutes les données qu'il dit, toutes les données qui sont énoncées, c'est des heures et des heures de lecture même. Hein.
Et puis finalement,
c'est un condensé du rapport du GIEC quand même, ce truc.
C'est pareil. Enfin, moi, il y a une chose qui m'a intéressé, sur toutes les questions d'énergie renouvelable, etc. Où il dit non, mais en fait, on touche pas au problème. C'est-à-dire que on crée des nouvelles sources, mais la vitesse on crée des sources est à peu près la même à laquelle on augmente notre consommation.
Oui, c'est ça.
Et finalement, malgré tout, on n'arrive toujours pas à baisser la quantité de pétrole qu'on utilise et on n'arrive toujours pas à baisser la quantité de charbon. Et ça, effectivement, c'est des éléments qui sont à prendre aussi en compte par rapport à ça.
Oui, on continue à...
Les énergies fossiles.
Ouais, la surproduction, l'augmentation de la production d'énergie n'est juste là pour pallier à l'augmentation des besoins. En
voilà.
Fait.
Et puis, il ne voit pas l'énergie effectivement que comme de l'énergie. Voilà. On a une tendance parfois, effectivement, en économie, c'est assez classique, à ramener l'énergie en termes de baril, qui est effectivement une unité. Qui est assez...
En baril ou en kilowattheure.
Voilà, en baril ou en kilowattheure, mais qui est une information, effectivement, qui, pour nous, n'apporte pas grand-chose. Là, quand il commence à présenter les choses en journée d'esclave, on dit, oui, non, mais là, on touche à quelque chose, et on ramène à l'humain...
J'ai travail homme, en fait.
Ouais. Mmh. Et on ramène, effectivement, à ça, à l'humain. Mmh. Et c'est vrai que c'est...
Mais... Là où son analogie elle est pertinente, c'est parce que comme il prend des comparaisons historiques et que la plupart des énergies ne sont des énergies récentes, ça permet de faire une comparaison historique. Ramener toute consommation énergétique à l'équivalent d'une journée de travail d'un homme permet de voir comment la production d'énergie et la consommation d'énergie a évolué depuis 2000 ans, par exemple.
Ah, mais complètement. Mais c'est vrai que du coup, je ne m'attendais pas effectivement à quelque chose d'aussi dense. En plus, quand on prend la couverture, la couverture est très belle, mais finalement, elle en dit très peu sur le contenu.
Oui.
Le titre, finalement, « Monde sans fin », peut amener à tout et n'importe quoi. Il est quand même peu descriptif, on va dire.
Ouais.
Quand vous prenez à l'intérieur, vous avez des côtés un dessin qui volontairement aussi a un côté assez naïf. Et puis les utilisations, notamment d'Iron Man dedans, qui en plus sont totalement justifiées.
Mais oui.
Parce que on voit effectivement en lisant qu'il a pris ça par rapport à la miniaturisation technologique et que manière de...
la surconsommation.
La surconsommation.
En fait. Un homme au Moyen-Âge, ou avant la révolution industrielle, consomme 100 fois moins qu'un homme actuel qui consomme comme...
C'est pas gratuit.
Non.
Mais en fait, rien n'est gratuit dans cette bande dessinée. Et Et le message du quand même, qui ressort de cet album, c'est à la fin, ça va nous coûter cher.
Oui.
Parce que ça reste effectivement un message qui reste assez pessimiste par rapport à ça.
Ah ben.
Mais du coup.
Un message réaliste.
Il est réaliste.
Voilà, parce que il tombe pas non plus dans le misérabilisme. Mais les chiffres sont les chiffres, les faits sont les faits.
Il essaye pas de faire de science-fiction.
Non.
Il essaye pas de nous dire.
C'est juste mathématique.
Il essaye pas de nous dire à ce rythme-là, en 2030 ou 2040, le monde est mort. Même si finalement, à un moment. Il y a un moment, il le fait en disant. Ouais, mais en 2050, on sait pas. Enfin, ça risque. Ouais, mais c'est dans 30 ans. Mais ça donnera quoi dans 40, 30, en 2040, 2030 ou 2020? Ah, bah 2020, c'est aujourd'hui. Et voilà. Et c'est ça, effectivement, qui est assez intéressant. C'est qu'il nous montre que ce qu'on peut voir à long terme, à l'échelle humaine, c'est quand même à très court terme. Et que, on a cet aspect-là qui est intéressant. C'est une très bonne lecture et c'est vraiment, effectivement, un titre qui mérite d'être lu, relu et surtout potassé parce qu'il y a vraiment énormément d'informations à l'intérieur.
J'ai envie de dire à offrir à votre oncle Bernard qui vient de s'acheter un SUV.
Ouais, ou éventuellement à votre pote prof d'histoire.
Aussi.
Ouais.
Mais ça sera plus utile à l'oncle Bernard qui vient de s'acheter un SUV.
Non, mais l'oncle Bernard, il va pas lire, il va dire c'est moche et c'est encore des Mickey. Ouais. Et puis l'oncle Bernard, il a pas forcément envie qu'on lui mette le nez dans son caca. Surtout, effectivement, au moment de la bûche de Noël.
Il devrait pourtant lire, donc le Bernard.
Mais oui, mais bon, voilà. En tout cas, on va revenir sur les 5 titres du jour. Nous avons commencé par...
L'incroyable histoire des animaux.
Juste avant, effectivement, oui. De refaire notre récapitulatif, on a juste oublié de dire le prix.
Ah,
27
oui.
euros.
Ouais.
Ce qui, compte tenu du nombre de pages et de la densité de lecture, est quand même, effectivement...
C'est
plus qu'honnête.
Voilà.
Alors, on revient.
Ouais. Donc, l'incroyable histoire des animaux, écrit par Karine Lou Matignon et Olivier Martin.
Donc, effectivement, une histoire sur l'exploitation, les animaux sur cette terre et la manière dont les hommes les ont utilisés, voire exploités.
Ensuite, nous vous avons présenté le tome 1 de Saint-Elme, de Serge Le Mans et Frédéric Peters.
Donc, une histoire, effectivement, de polar sur...
16 euros, si
oui,
je ne m'abuse.
Sur une petite île assez étonnante, au final.
Petite ville, ouais.
Voilà. On continue.
Par Dans le palais des miroirs, par Liv Strömquist.
Donc, une histoire, effectivement, féministe.
Ouais,
Un essai féministe sur les femmes et la manière dont elles gèrent leur place dans un monde dominé par les hommes. Sans pour autant, effectivement, critiquer les hommes. Mais vraiment...
Questionner la place de la femme.
Voilà, tout à fait. On revenait ensuite avec de la fantasy.
La baroque épopée du monde qui ne voulait plus tourner, de Christophe Anders
Arleston
et Dana Dimat.
Voilà.
C'est le tome 1.
Tome 1, donc sur une histoire en deux parties. Sur de la fantasy pour adolescentes d'excellente facture. Et on finissait par Le monde sans fin.
Le monde sans fin de Christophe Blain et avec la collaboration, enfin avec le scénario de Jean-Marc Jancovici. Voilà.
Donc, une histoire. Enfin, pas une histoire. L'histoire, parce que du coup, c'est pas une, c'est la seule. De l'histoire de l'énergie, la manière dont on les exploite et surexploite.
Ben oui.
Voilà.
Et ça sort chez Dargo.
Question rituelle, si tu ne devais en garder qu'un.
Le monde sans fin.
Ok, même plus effectivement. Voilà. C'est. Alors, je suis assez partagé parce qu'on a quand même 5 titres dans des genres totalement différents. Mais je crois aussi que je resterai sur le monde sans fin parce que ça reste aussi un domaine qui m'intéresse. Et voilà, et c'est un livre que forcément j'aurai une tendance à reconsulter à différents moments. Et clairement, c'est aussi ça, acheter un livre. C'est aussi savoir le fait qu'on a envie à un moment de s'y remettre et de se replonger dedans. Et il y a toujours effectivement un moment où il y a une question qui peut nous ramener à ça, parce que c'est vraiment le quotidien du monde d'aujourd'hui. Voilà. On remercie donc
Encore une fois Grégoire et
Bédérard
et ses collaborateurs chez Bédérard.
Voilà. Donc pour
pour cette sélection.
Cette sélection, clairement avec que des titres de qualité et il n'y a pas un bémol à proprement parler.
Non.
Ce qui est aussi important à noter, c'est que finalement, dans d'autres circonstances, chacun des cinq titres aurait pu être le titre final.